L'Apocalypse nous parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres qui nous sont promis. Et c'est important parce que, certes, quand on réfléchit à la création d'un point de vue matériel, on se dit qu'il faut économiser, qu'il faut polluer le moins possible, qu'il faut essayer de garder les choses en état autant que l'on peut pour les transmettre aux générations futures. Mais néanmoins, je ne crois pas que cela suffise à donner un sens à notre existence. Autrement dit, notre existence ne peut pas se réduire à ces petites affiches qu'on trouve dans les toilettes, prière de laisser les lieux dans l'état où vous les avez trouvés en entrant. Cela n'enthousiasme personne. Évidemment, il ne faut pas gaspiller la création, évidemment, il ne faut pas tout salir, tout détruire, et nous le savons, et il est bien que chacun prenne garde à cela. Mais néanmoins, vous disais-je, économiser, consommer le moins possible, ne rien abîmer, ne fait pas un projet d'existence. Cela ne ferait, de l'idéal qu'une sorte de frein permanent, disant vous devez à la limite ne pas vivre, parce que sinon vous allez empiéter sur la vie des autres et manger les provisions de vos enfants. Alors donc, ce que je crois, c'est qu'il faut avoir une vision prospective. Et il faut avoir des projets, et non pas mettre une affiche en disant « prière de laisser les lieux dans l'état où vous les avez trouvés en entrant », mais de dire « prière d'améliorer ce lieu et de le rendre comme vous auriez voulu le trouver en entrant ». Et là, on a un projet qui nous met en avant, qui nous met dans une dynamique, et qui peut faire que notre vie soit un enthousiasme, et faire en sorte que notre vie puisse être considérée comme apportant quelque chose de positif au monde, et pas simplement comme devant le dégrader le moins possible. Et c'est là où je crois que la religion a un mot à dire, parce qu'en effet, le monde matériel n'a aucune idée de vers où il faut aller, alors que la théologie se définit comme étant ce que l'on pourrait appeler une téléologie, c'est-à-dire la science de l'avenir et du futur. Non pas pour prédire l'avenir, mais pour dire voilà le but que vous pouvez avoir et voilà vers où vous pouvez vous diriger, dans quelle direction vous pouvez tourner vos regards et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour ce monde qui s'y trouve et que vous aimeriez qu'il s'y passe. Et ça, c'est, je crois, ce que nous apporte non seulement la théologie, mais plus particulièrement l'Apocalypse. En effet, l'Apocalypse, contrairement à ce que pensent les gens de la rue, ne parle pas de la fin du monde mais en tant que destruction, mais parle de la fin du monde en tant que finalité. Comme on dit, la fin justifie les moyens, enfin, ou pas. Mais en tout cas, l'Apocalypse parle de la fin du monde, c'est-à-dire vers où le monde doit-il s'orienter, vers où devons-nous diriger nos efforts pour créer un monde qui soit meilleur. Et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle les discours de révélation, parce que vers où faut-il aller? Le monde matériel n'en sait rien. La science, le monde matériel, ne fait que décrire ce qui est et ce qui risque d'arriver, mais non pas vers où nous pouvons espérer aller. Et ça, c'est le travail d'un discours que l'on va croire comme vrai, comme parole de Dieu, disant, eh bien voilà, orientez tous vos efforts pour créer un monde qui soit comme ci et comme ça. Donc l'Apocalypse n'est pas une mauvaise nouvelle, elle nous annonce l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est-à-dire qu'elle nous pointe du doigt la nouvelle terre voulue par Dieu. Elle nous pointe du doigt ce royaume de Dieu vers lequel nous devons grouper nos forces pour essayer de faire en sorte que ce monde d'ici-bas puisse devenir autant que possible en chemin vers le monde du royaume. Et dans la fin de l'Apocalypse, en particulier Apocalypse 21 et 22, donc nous avons là des éléments qui me semblent extrêmement importants pour comprendre ce monde auquel nous devons travailler. On nous dit en effet, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et la première chose qui nous est dit, c'est que ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, donc en particulier cette nouvelle terre, on nous dit qu'elle vient comme une ville qui descend du ciel. qui sera la Jérusalem céleste. Eh bien, rien que cela, moi, m'apprend beaucoup de choses. Parce que d'abord, la nouvelle terre est présentée comme une ville. Ça, c'est extrêmement curieux, parce que l'idéal dans l'Ancien Testament, ou au début de la création, c'est un jardin. Et comment se fait-il que les nouveaux cieux ne soient pas un jardin sauvage, mais une ville ? Eh bien, c'est extrêmement important parce que cela montre que le but n'est pas le retour à la vie sauvage, en quelque sorte, mais au contraire, que le but est d'arriver à vivre en harmonie entre êtres humains. Alors bien sûr, cela ne se fait pas à l'encontre de la nature, puisqu'on nous dit bien que dans cette ville, il y a la vie est donnée par l'arbre qui est au milieu. On nous dit aussi qu'il y a le fleuve qui coule au milieu de la place de cette ville, de la Jérusalem céleste. Donc c'est une ville qui incorpore la dimension de la nature. Mais la nature, là, n'est plus vue comme des bêtes sauvages pouvant menacer toute chose, mais comme étant la nature apportant la source de l'essentiel, qui est l'eau et qui sont les fruits de la vie. Mais en tout cas, l'idée de la ville, c'est que nous sommes invités à travailler, à vivre ensemble. Vivre ensemble, oui, c'est ça une ville. Ça n'est pas chacun dans son petit coin, dans son bungalow au milieu du désert. La ville, c'est chacun qui vit ensemble et chacun qui partage. Il ne s'agit pas de se retirer des autres dans une sorte d'individualisme terrible, mais d'apprendre à vivre ensemble. Et dire que la nouvelle terre est comme une ville nous apprend une chose essentielle et qui est peut-être, je dirais même, la clé de tous les problèmes mondiaux aujourd'hui, c'est que on ne peut pas faire son salut tout seul. Et que de toute manière, il ne va pas y en avoir certains qui vont s'en tirer tout seuls dans leur coin pendant que les autres crèvent de faim à l'autre bout de la planète, mais on fait son salut en vivant avec les autres. Et que ce n'est que comme ça que nous pourrons même sauver la planète. C'est si nous arrivons à vivre les uns avec les autres, pacifiquement, j'allais dire fraternellement, je ne vais peut-être pas jusque-là, parce que dans une ville, tout le monde n'est pas fraternel, mais en tout cas, dans une ville, on évite que chacun s'entretue, et donc on vit comme des voisins respectueux les uns des autres. C'est déjà un bon point de départ. Mais en tout cas, cette nouvelle terre, nous ne pouvons pas la construire en construisant des ghettos, en érigeant des barrières, en construisant des murs. Dans une ville, il y a tout le monde et on essaye de vivre ensemble, en paix autant que possible. Alors bien sûr, dans une ville, tout le monde n'est pas bon. Il y a des bons, il y a des méchants, il y a des gentils et des pas gentils. Mais chacun a besoin des autres. Et c'est le propre de la ville, c'est de comprendre qu'on a besoin des autres. Et ça, c'est vrai d'un point de vue matériel, c'est vrai d'un point de vue humain, puisque la solitude est absolument invivable. Et on sait que les cas d'isolement d'un être humain, si on coupe un être humain de toute relation humaine pendant plusieurs années, il cesse d'être humain, c'est-à-dire qu'il devient un sauvage qui perd même la parole et même la marche sur deux pattes. Contrairement à l'image romancée de Robinson Crusoe ou de je ne sais qui, les situations de confinement montrent que l'humanité ne se fait qu'avec les autres. Et donc, effectivement, dans la ville, on comprend que chacun a besoin des autres et que l'on doit apprendre à se supporter les uns les autres. Bon. Alors, c'est vrai que c'est ce que nous devons probablement apprendre pour construire ce monde nouveau, avoir ce sens de la collectivité, du partage, du service, et que la clé de la vie, c'est cette relation qui importe, qui entraîne toutes les choses essentielles que l'Évangile prêche depuis toujours. C'est l'amour, le partage, le pardon, sans quoi rien n'est possible. Et puis on nous dit que dans cette ville, il y a aussi la présence de Dieu, et que Dieu sera au milieu d'eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc là, c'est plus qu'une ville de gens qui s'ignorent, c'est un peuple avec une certaine cohérence. Alors cette ouverture et cette fraternité, elle est belle et j'y crois. Cela dit, elle est quand même tempérée par le texte lui-même, par le fait que l'on nous dit que cette ville, elle est entourée d'une haute muraille. On nous dit qu'elle a une haute muraille. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'envisager une sorte de masse informe où il n'y aurait plus de frontières, plus de distinctions, où tout le monde serait dans tous les sens, naviguant n'importe comment. Dans la Jérusalem céleste, il y a une muraille, c'est-à-dire qu'il y a un dedans et un dehors. Et il y a aussi des distinctions à faire par rapport au monde. Et ça, je crois que c'est vrai, et en même temps, l'Apocalypse ne dit pas comment doivent être ces murailles, où est-ce qu'elles doivent être, mais en tout cas, elle nous montre qu'il y a l'importance de savoir mettre des limites et de ne pas, même si on vise à vivre ensemble, en collectivité, à ne pas tomber dans une sorte de communisme tel qui fasse qu'il n'y ait plus aucune frontière entre rien et entre personne. Donc il y a quand même, pour vivre en paix, la nécessité qu'il y ait des murailles et des protections. Et ainsi, l'idéal qui dirait qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de verrous sur les portes, que tout ce qui est à moi soit à toi, qu'il n'y ait plus de frontières, est évidemment faux. Pour qu'une société puisse vivre, il faut qu'il y ait des délimitations et des murailles. Mais jusqu'à quel point? Ça, c'est compliqué. Évidemment, ces murailles nous invitent à nous poser la question du discernement, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est tolérable et de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et même d'ailleurs dans cette Jérusalem céleste, elle est certes généreuse et elle descend du ciel, donc ça veut dire qu'elle est offerte, mais en même temps, il y a une parole très généreuse qui dit « à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau gratuitement », mais en même temps, le texte de l'Apocalypse nous dit aussi que dans cette Jérusalem céleste, il n'y aura pas de place pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et les menteurs. Donc il y a quand même, à un moment donné, une limite à faire et un discernement pour essayer de faire en sorte qu'on ne tolère pas tout et n'importe quoi et que par conséquent, le but n'est pas l'indistinct et l'abandon de toute valeur, de toute morale, de tout jugement, mais c'est quelque chose de plus compliqué. Et en effet, il faut des murailles hautes, je dirais des convictions, des façons de discerner, mais ces murailles sont quand même, je ne veux pas vous pousser, je dirais, à tomber dans une sorte de théologie d'extrême droite, et je vais tempérer votre enthousiasme pour les murailles par le fait que l'Apocalypse nous dit que dans ces murailles, il y a 12 portes, qui ne sont jamais fermées d'ailleurs, nous dit bien le texte. Elles sont toujours ouvertes. Donc c'est des murailles qui sont un peu des passoires. Il y a des murailles, mais elles ont des portes. 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest. 3 portes de chaque côté. Et c'est donc une ville qui en même temps est ouverte partout. Alors, elle est ouverte partout, mais elle a quand même des murailles. Et là, c'est une énigme que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'il ne faut pas, d'ailleurs, trop chercher à la résoudre, de savoir comment on gère cette ambiguïté entre la fermeture et l'ouverture, entre l'identité, la conviction, et puis la tolérance sur les autres. Et faut-il qu'il y ait plus de murailles que de portes, ou plus de portes que de murailles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la Jérusalem céleste, elle aura des hautes murailles et plein de portes. À vous d'essayer de gérer ça à votre manière. Sur ces portes, on peut dire des choses, parce que d'abord, on nous dit qu'il y a 12 portes. Ça m'étonne un peu, parce que, effectivement, donc je vous dis, les portes n'enlèvent pas qu'il y a des murailles, sinon on aurait pu dire qu'il n'y avait plus de murailles, mais si, il y a quand même des murailles, mais il y a 12 portes. Et on aurait pu dire, on va faire une énorme porte, très large et très grande, où, dans laquelle tout le monde peut entrer et sortir. Ce n'est pas le cas. Il y a 12, j'allais dire, petites portes. 12 portes. Et cela montre, pour moi, c'est que, d'abord, l'ouverture doit être de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à s'ouvrir vers le nord, parce que les Norvégiens, les Suédois sont sympathiques. On s'ouvre vers l'ouest parce que les Américains, c'est notre modèle, mais on se ferme au sud parce que le Maghreb nous embête, et à l'est parce que les gens de l'est sont des gens compliqués. Il y a 12 portes, et elles sont aux quatre côtés. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir, je crois, à tous les côtés, à toutes les cultures. S'ouvrir, ça ne veut pas dire abandonner ce que l'on est, il y a quand même un dedans et un dehors, mais être capable de s'ouvrir pour recevoir, pour dialoguer, pour aller se rencontrer. Et il faut s'ouvrir à toutes les cultures, toutes les cultures. Il n'y a pas un côté fermé, muré, toutes les cultures, de tous les côtés. S'ouvrir à toutes les situations, je dirais, de société, à tous les niveaux de société. Et s'ouvrir aussi, je dirais, à tous les modes de vie culturels, sociaux et sexuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeture sur un côté, vous voyez, c'est vraiment une ouverture dans tous les sens. Et ensuite, il faut qu'on trouve la manière d'entrer et de sortir, parce qu'une porte, ça permet de laisser entrer, mais ça permet aussi d'aller vers l'autre. Une porte, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas simplement de se demander « est-ce que je laisse entrer tout le monde ou pas ?» La porte, c'est aussi pour sortir et aller vers l'autre, aller le rencontrer là où il est, lui serrer la main, lui parler, essayer de le comprendre. Ce n'est pas de rester chez soi en voyant l'autre comme une menace, mais c'est d'entrer et de sortir tout en ayant, je dirais, son identité centrale, puisque la ville est bien délimitée par une muraille. Peut-être d'ailleurs que c'est le problème de la nation française, de savoir, avant, on se demande comment on ouvre les portes, mais de se demander, mais finalement, qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui est notre cœur, notre identité? Quelle est notre référence centrale? Et là, avant de se demander comment sont les portes, il faut d'abord se demander quelles sont nos murailles, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous définit dans notre identité. Et ça, c'est effectivement une question, je pense, qu'il faut avoir. En tout cas, une porte, je vous ai dit, ça va dans un sens comme dans l'autre. Et s'il y a 12 petites portes, il faut à chaque fois bien prendre garde à la porte que l'on prend. C'est-à-dire qu'il faut bien passer par chaque porte. Et chaque porte est, dirais-je, une porte étroite dans laquelle il faut passer finement. Donc ce n'est pas un énorme portique où on passe n'importe comment. On vise bien pour entrer dans la porte. Saint Augustin lui-même disait que s'il y avait 12 portes, c'est qu'elles devaient être très petites. Et donc saint Augustin disait que certes ces portes étaient bien agréables, mais il prétend, ça n'engage que lui, qu'elles étaient très basses, ces portes, et que donc c'est des portes où on doit se baisser pour passer. C'est-à-dire que pour passer dans ces portes, il faut à un moment donné faire preuve d'humilité et accepter de se baisser pour ne pas arriver vers l'autre avec un ego démesuré et un orgueil qui écraserait l'autre. Ce qui est vrai d'ailleurs peut-être même dans les deux sens. Et puis moi je dirais que c'est plus que cela, parce que le texte nous dit qu'au-dessus de chaque porte il y a un ange. Chaque porte est dominée par un ange. L'ange, c'est le messager de Dieu, c'est-à-dire de faire en sorte que chacune de nos relations personnelles et individuelles avec chacun soit à chaque fois dominée par une parole spirituelle qui est la parole de l'Évangile et qui est une parole de paix et d'amour et de grâce. C'est-à-dire que chacune de nos relations soit nourrie de cette parole de Dieu et non pas soit vue simplement comme une sorte de discussion commerciale d'intérêt ou de l'un ou de l'autre ou de crainte, mais soit une véritable relation où l'autre, où Dieu est présent, je dirais, dans cette relation, montrant que ni lui ni moi ne sommes Dieu, mais nous ne sommes que des éléments inférieurs à une réalité supérieure qui nous surplombe. Alors vous me direz, cela c'est un beau projet, et en même temps cet idéal de vie vers lequel nous devons nous diriger n'est pas facile à obtenir. Mais ne vous inquiétez pas, parce que l'Apocalypse ne dit pas que cette ville, nous devrons la construire de nos propres mains. On nous dit que cette ville, elle descend du ciel. Et là, c'est important pour moi parce que justement, cela veut dire que l'on n'est pas dans une sorte de théologie des œuvres, en disant nous devons être capables par nos propres forces de créer la société idéale dans laquelle tout le monde vivra heureux, mais de dire la nouvelle terre, elle est accueillie d'en haut. C'est-à-dire, elle doit se recevoir aussi comme un cadeau. Parce que je ne crois pas que l'homme soit capable de créer le royaume de Dieu sur la terre. Mais ce royaume de Dieu, nous pourrons le vivre ou nous pouvons l'expérimenter en partie ou en prémisse dans notre existence si nous savons le recevoir. Et je crois que cette attitude de savoir recevoir est une chose absolument essentielle parce que c'est la base de tout. Savoir recevoir, recevoir des autres, savoir recevoir de Dieu, et avant de savoir donner, avant de vouloir donner, il faut d'abord être en mesure de recevoir. De recevoir, c'est-à-dire, c'est déjà s'ouvrir aux autres. Et c'est là, je crois, l'attitude qui peut nous permettre d'avoir en même temps cette espèce d'humilité et cette capacité à comprendre que ce n'est pas à nous à réaliser le royaume de Dieu, mais que ce royaume de Dieu, il est à recevoir comme un cadeau. Ensuite, la présence spirituelle est évidemment très importante là-dedans, et là, nous sommes obligés ces derniers temps de repenser cela parce que c'est compliqué. On nous dit que cette ville, elle est prête comme une épouse parée pour son époux. L'épouse, c'est l'humanité, et l'époux, c'est Dieu dans la Bible. Ce qui me fait penser que ce royaume de cette nouvelle terre sera nécessairement spirituel, c'est-à-dire en relation avec Dieu. On connaît ce mot, hein. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On ne le dit plus aujourd'hui maintenant. Depuis les histoires de l'islamisme intégriste, on ne dit plus ça du tout. Parce qu'on est en train de se demander si par hasard la spiritualité ne risque pas au contraire à un moment donné de détruire le monde. Alors je ne sais pas. Évidemment, ma solution c'est que la spiritualité, plutôt de vouloir décapiter tout le monde, c'est pas de la spiritualité ça. C'est de la jalousie, c'est de la haine politique, c'est beaucoup de choses qui se parent sous un aspect religieux, mais très honnêtement, la spiritualité n'a jamais pu demander de décapiter qui que ce soit ou d'écraser des gens avec des chars. Ce n'est pas de la spiritualité possible. La spiritualité, c'est l'humilité, c'est la fraternité, c'est l'amour. Dans toutes les religions du monde, en Orient, en Occident, partout, ça n'est pas de décapiter les gens. Et donc, on peut essayer de se sortir d'affaire en se disant la spiritualité... Le monde vivra s'il arrive à découvrir une authentique spiritualité, ça veut dire que j'exclus les méchants de la sphère du spirituel. Ou alors, je pourrais dire que cette citation, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, oublie simplement une chose, c'est que de toute façon, la vie ou la mort du monde passera par une spiritualité. C'est-à-dire que s'il y a une spiritualité perverse, qui vise à vouloir détruire le monde, on ne pourra lutter contre cela, non pas par une absence de spiritualité, mais par une spiritualité positive, qui dit « aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous et vivez en frères ». C'est-à-dire que oui, seule la spiritualité peut sauver le monde, et d'autant plus qu'il y a des risques de perversion de la spiritualité. Parce qu'on ne lutte pas contre une spiritualité mauvaise par du rien. On ne peut pas lutter contre une arme destructrice par une absence de tout. Et on ne peut pas lutter contre la radicalisation des méchants en leur proposant simplement comme projet de ne croire en rien et de n'avoir aucun idéal, aucun objectif et aucune élévation d'âme. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc oui, il faut que cette ville, elle ait une dimension du spirituel et il est plus important que jamais que dans notre façon d'accueillir un monde nouveau, il y ait une spiritualité forte et qu'il y ait une place juste. Alors, donc, je vous disais, effectivement, nous devons comprendre cela, et en même temps, comprendre que même la question de l'écologie, je crois, ne peut se comprendre qu'à partir d'une présence de Dieu. C'est-à-dire que l'écologie purement athée, comme je l'ai dit au départ, ne serait qu'une écologie de la préservation de l'existant. Alors que dès que l'on considère un Dieu créateur dans le monde, on est dans une conception dynamique du monde. Et à ce moment-là, il s'agit de voir le monde comme en évolution, comme un processus de création, et il faut comprendre qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et ce quelque chose à faire, il est compliqué, vous allez le voir, parce que on trouve ensuite deux choses qui semblent contradictoires. Ce verset que l'on cite très souvent au moment des enterrements, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil ni douleur. » Donc ça, on se dit, c'est chic, c'est de la chance, on ne pleurera plus les morts, ce sera merveilleux. Mais juste après, Dieu dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et en fait, réfléchissez bien, ces deux affirmations sont absolument contraires. Parce que pour faire du nouveau, il faut abandonner l'ancien. Autrement dit, quand j'entends « il essuiera toutes larmes de leurs yeux », je me dis « c'est merveilleux, dans le royaume de Dieu, on ne perdra plus rien, plus personne ne mourra, les morts, les vieux resteront toujours en vie, les enfants ne mourront jamais, et tout ce que j'aime va rester indéfiniment semblable à ce que cela a toujours été ». Mais non, la promesse de Dieu, ce n'est pas ça, c'est de dire « je ferai toutes choses nouvelles », c'est-à-dire que tout l'ancien va être balayé. Et donc, c'est compliqué. Parce que moi, je voudrais que rien ne change, que les vieilles choses demeurent, alors que non, s'il n'y a plus de deuil, c'est que tout est fait nouveau. C'est-à-dire qu'au contraire, je me tournerai vers l'avenir et non pas vers le passé. Je me tournerai vers la vie et non pas vers la mort. Et je me préoccuperai plus, je dirais, de mes petits-enfants, que de mes arrière-grands-oncles ou grand-tantes en train de mourir. C'est-à-dire que je me tourne vers la vie, je me tourne vers l'avenir, non pas vers ce qui était hier, mais vers le demain. Et ça, c'est très compliqué. Mais avec Dieu, on peut faire toute chose nouvelle, c'est-à-dire ne pas se tourner vers l'ancien, mais vers le nouveau. Et donc, voyez-vous, on n'est pas du tout dans une logique de la préservation de la création, mais au contraire dans l'idée de créer un monde nouveau et d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'avoir un projet. Et je pense effectivement que dès qu'il y a un problème, notre tendance naturelle, c'est de vouloir revenir en arrière, de vouloir de sauvegarder les choses à peu près comme elles étaient au mieux possible, alors que la théologie de l'Évangile est incroyablement, je dirais, moderne. Et il y a là cette espèce de conception de la rupture avec le passé, et on comprend pourquoi d'ailleurs, je dirais, la prédication protestante évangélique a eu tant de succès dans la construction du monde nouveau des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est ça, c'est de dire l'avenir, il est devant nous, et c'est pas dans la préservation de vestiges du passé. Et on parle de ce grand penseur de l'Amérique qui est Emerson. Quand il vient en Europe, il est sidéré par le poids du passé, par le poids de l'histoire, par les châteaux, les églises, les vieilles pierres, les musées, les machins. Et il dit, mais c'est effrayant. Et il part en courant aux États-Unis et il dit, ben nous, on va créer un monde nouveau, parce qu'il faut se tourner vers l'avenir. Donc oui, ne rasons pas pour autant nos châteaux et nos églises. Elles sont là, tant mieux. Mais en tout cas, les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne sont pas dans la préservation des monuments historiques. Voilà. Et même notre religion d'aujourd'hui et de demain n'est pas dans la préservation d'une sorte d'image historique de ce qu'était l'Église au XIXe siècle. La solution, elle est devant. La solution, elle est nouvelle. C'est quelque chose que nous n'imaginons pas et que nous devons inventer. C'est-à-dire qu'il y a là, on est dans un dynamisme créateur qu'il faut accueillir comme une nouveauté qui fait toute chose nouvelle. Alors maintenant, oui, cela dit, voyez-le quand même comme une promesse. Quand l'Apocalypse dit « il essuiera toutes larmes de leurs yeux », je peux l'entendre quand même, pas seulement comme cette espèce de parole un peu dure que j'ai eue en disant « rupture avec le passé, ne pleurez pas vos morts », une bonne prédication pour le jour de la Toussaint. Tournez-vous vers l'avenir et plutôt que d'aller fleurir les cimetières, allez jouer une heure avec vos petits-enfants. Mais je veux dire, c'est pas que ça, parce qu'il y a aussi quand même, on peut l'entendre autrement. Cette parole, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, c'est une vraie promesse. Et de dire que, de toute façon, n'ayez pas peur, parce que quelle que soit la situation, et je vous l'ai dit, l'avenir du monde ne dépend pas que de nous, et l'avenir du monde, il sera ce qu'il sera, et on subit, d'une certaine manière, le monde comme il est. Et donc, quel que soit le monde, quels que soient les événements, quel que soit ce que vous vivrez, et même pour vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et plus, quel que soit le monde qu'il leur sera laissé, il y aura toujours un Dieu pour essuyer les larmes de leurs yeux. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, il y aura toujours un Dieu d'espérance, d'amour et de joie, pouvant leur donner toute l'espérance, tout l'amour et toute la joie qu'il leur faudra pour vivre heureux. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui est toujours dans cette dialectique entre la responsabilité que nous avons de créer un monde et en même temps, à un moment donné, cette espèce de lâcher prise en disant, écoutez, faites ce que vous pouvez pour le monde. Mais de toute façon, ni vous ni moi ne sauverons le monde en tant que tel. Donc, on aura le monde qu'on aura. C'est comme ça. Hein? Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et à un moment donné, ce lâcher prise de se dire, mais ensuite, je ne suis pas moi obligé de tout construire moi-même, mais quel que soit le monde, il y aura toujours au centre ce fleuve de cristal qui sort du trône de Dieu. Ça, c'est le premier verset du chapitre 22 que je ne vous ai pas lu. Ce fleuve de cristal qui sort du trône de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes les bombes atomiques du monde, vous détruirez tout ce que vous voudrez, mais jamais Dieu lui-même. Et ce Dieu d'amour, de tendresse, de lumière, d'espérance et de paix, il est au-delà de tout ce qui peut arriver à ce petit monde terrestre et mortel. Au-delà de tout ce qui peut vous arriver à vous-même ou à vos proches. Et si vous avez ce Dieu avec vous, et si vous recherchez ce Dieu, et si vous comprenez que quel que soit le monde que vous voulez créer, pour vous en tout cas, Votre nouvelle terre ne pourra se créer que si elle est centrée sur ce Dieu d'amour et d'espérance qui est le Dieu de l'Évangile. Et quoi que vous ayez comme monde, mettez en son centre ce Dieu de Jésus-Christ. Parce que de ce Dieu de Jésus-Christ sort un torrent d'eau qui est une source d'eau vive, qui toujours pourra rafraîchir vos langues brûlantes, qui toujours vous donnera l'eau qu'il faudra pour votre cœur desséché, assoiffé, et qui toujours pourra vous donner la source, je dirais, de toute espérance, de toute foi et de toute joie, c'est-à-dire qu'il y a ce fleuve de cristal qui sort du trône même de Dieu. Alors oui, nous avons cette responsabilité, mais avant tout, soyons confiants dans cette présence de Dieu qui nous offre tout par grâce, et tout ce dont nous avons besoin, rien de plus, mais rien de moins, pour vivre heureux, en paix, avec lui, avec nous-mêmes et avec tous ceux qui nous seront donnés de rencontrer. Amen.